Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, vous êtes bien dans J'irai cracher sur vos ondes sur Scilab. J'irai cracher sur vos ondes, c'est une émission dont vous avez sûrement compris la thématique si vous aimez ce dont elle parle, puisqu'il y a un jeu de mots dans notre titre. Si vous n'avez pas compris de quoi parle cette émission, vous pouvez rester et accroître votre capital culturel. On est là pour ça, c'est gratuit. Alors aujourd'hui, on va vous parler, on va continuer notre lancée sur la découverte des librairies et maisons d'édition rennaises, et on va vous parler de Le Fayère, qui est un peu une institution ici. On a également deux petites chroniques de prévues qui vont être assurées par Sandrine.
Bonjour à toutes et à tous.
Et bah, je vous propose du coup de commencer directement par s'écouter cette interview qui a été réalisée par Cécile, qui même quand elle est surchargée de travail, continue à nous assurer ses missions. Voilà,
c'est et on l'embrasse très fort.
Bonjour Caroline Legleu, merci de me recevoir ici pour parler de la librairie Le Fayère. Déjà, avant de commencer à en parler, justement, je vais vous demander si vous pouviez vous présenter, nous dire à nous, à nos éditeurs et auditrices, qui vous êtes dans la librairie. Est-ce qu'on peut vous croiser au coin des rayons ?
Donc bonjour, je suis donc Caroline, je m'occupe de la communication à la librairie Le Fayère. Et je gère l'ensemble des événements, donc en ce moment je suis un petit peu en stand-by sur les événements, mais ça ne nous empêche pas d'avoir beaucoup d'idées pour la suite.
D'ailleurs, vous lancez une de mes futures questions, on peut en parler tout de suite. Mettons, en période hors confinement, si vous avez une programmation assez riche d'événements divers pour favoriser le lien entre votre clientèle et la littérature, quels sont-ils ces événements ?
Alors, on organise des événements au sein de la librairie, donc il s'agisse de rencontres littéraires ou de dédicaces. Et on a également des événements en dehors de la librairie, donc hors les murs, par exemple à l'espace Ouest-France ou dans d'autres lieux culturels comme le théâtre de la Parcheminerie.
Très bien. Et d'ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que vous disposez d'une salle dédiée justement à ces temps de rencontre.
Exactement, on a une salle au sein de la librairie, donc une salle assez modeste d'une quarantaine de places, mais qui est chaleureuse et qu'on veut être un lieu de vie.
Et donc, je reprends du coup le fil de mon entretien. Avant de parler de la librairie au sens de ses activités, j'avais envie de vous demander, Caroline Legleu, s'il était possible que vous nous fassiez une petite audio-description de la librairie. Alors, histoire de la faire visualiser à celles et ceux qui nous écoutent, je vous mets en situation, je suis descendue à République, je remonte vers la place de la mairie et je tourne à droite, j'arrive sur les vieux pavés de la rue Saint-Georges et je vois une vitrine. À quoi ressemble-t-elle cette vitrine ?
Alors effectivement, c'est une vitrine un petit peu ancienne, donc on est dans une rue pavée avec les colombages au-dessus et derrière nous. Et puis on rentre dans la librairie. La librairie, c'est 3 étages et quelques labyrinthes. Vous montez sur votre droite, vous avez notre salle de rencontre où vous pouvez vous installer sur des canapés en cuir et boire un café en consultant des ouvrages. Au premier étage, ce sont les ouvrages scolaires, universitaires, l'histoire, les essais. Ensuite, vous pouvez descendre, vous aurez la littérature, les ouvrages d'art, mais aussi les ouvrages de cuisine. Et puis enfin, tout en bas, au sous-sol, la jeunesse avec des livres pour les enfants, pour les adolescents, mais aussi des jeux, l'univers du poche, l'univers du voyage et puis la BD.
Et je me permets de vous compléter, au rez-de-chaussée, vous trouvez également plusieurs rayons de papeterie qui sont assez fournis et assez jolis.
Exactement, oui. Oui, oui. Et on a aussi une boutique qui s'appelle la boutique la papeterie Bas-en-Ro et qui est plus riche en papeterie encore et on travaille beaucoup avec eux.
Et du coup, la librairie Le Fayère, c'est un peu une institution à Rennes. Mm-hmm. Alors de ce que j'ai lu, elle a été créée en 1925.
Exact.
Donc toute une génération a pu venir ici, et on a pu venir enfant et venir jusqu'au ces derniers jours pour trouver des livres. Comment la librairie a elle-même grandi, évolué et changé au cours de toutes ces années ?
Alors déjà, elle n'a pas toujours été rue Saint-Georges. Avant, elle faisait un angle pas très loin d'ici, hein, puisque c'était l'angle au niveau du Parlement. Et puis, elle a déménagé il y a une vingtaine d'années. Effectivement, c'est une institution. Essentiellement parce que Rennes est une ville universitaire. Et donc, on a un rayon universitaire assez large. On est connu par les étudiants, mais aussi par leurs professeurs. Et puis je pense que ce qui fait la richesse aujourd'hui de la librairie Le Fayard, c'est l'ensemble des événements et le fait que ce soit un lieu de vie et un lieu convivial où on peut certes acheter des ouvrages, mais on peut aussi venir rencontrer des auteurs ou simplement flâner.
Et c'est une librairie qui a une telle conséquence, on en a déjà parlé, 3 étages, de nombreuses salles, un rayonnage très varié. On peut même y trouver plus de 80 000 références, dit votre site. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionne et s'organise une librairie de cette taille, que ce soit par la surface, le fond, mais aussi bah, l'équipe qui est assez conséquente également?
Oui, alors c'est effectivement 800 mètres carrés. On est à peu près 40 employés, mais tout le monde n'est pas libraire. Chaque rayon est vraiment autonome. On travaille, comme toutes les librairies, avec des représentants. Donc on a la programmation assez en amont, ce qui nous permet de faire nos choix en fonction des attentes de notre public, de nos lecteurs, mais aussi en fonction de nos attentes à nous, de nos coups de cœur. Donc une partie de notre travail en dehors de la librairie, c'est de lire, de consulter les ouvrages et de voir ce que nous, on aimerait présenter à nos lecteurs. Et ensuite, écoutez, on reçoit les ouvrages quasiment quotidiennement, ce qui nous permet d'avoir entre 80 000 et 90 000 références en fonction des périodes. Et puis, ce qui fait aussi notre richesse et notre force, c'est d'avoir un fonds assez conséquent, puisqu'on a des ouvrages qui datent d'il y a quelques années déjà, mais qui font référence et donc on garde toujours dans nos rayons.
Est-ce que vous parlez de des ouvrages comme des classiques de littérature qui reviennent régulièrement dans les programmes, par exemple?
Oui, exactement, des classiques de littérature, mais pas seulement, aussi hein, des ouvrages d'histoire, des ouvrages sur la Bretagne, des choses qu'on ne trouve pas forcément dans les librairies plus modestes, mais qu'ici, on a la chance d'avoir en rayon parce qu'on a de l'espace.
Un rayon sur lequel, d'ailleurs, je voulais un petit peu revenir, c'est le rayon sur la Bretagne. Vous faites Ce n'est pas qu'un espace pour mettre en avant, du coup, les livres qui parlent de la région, mais vous avez aussi une place un peu belle donnée aux éditeurs locaux.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler?
C'est important, je pense, en fait, quand on est une librairie rennaise, de mettre en avant aussi les éditeurs locaux et régionaux, parce qu'en Bretagne, il y en a beaucoup, et que notre rôle aussi, c'est un rôle de passeur, c'est un travail en commun que nous avons tous, éditeurs et libraires, pour mettre en avant notre région. Donc c'est un travail, il y a beaucoup de relations avec les éditeurs locaux, ils viennent nous voir, on va les voir, on essaie d'organiser ensemble à la fois des événements, mais aussi une mise en place dans nos rayons pour qu'ils aient une bonne visibilité.
Est-ce que vous avez peut-être un nom, par exemple d'une maison d'édition, quelques-unes que vous voulez mettre en avant pour nos auditeurs et auditrices?
Comme ça, non, je voudrais pas. Je voudrais
pas de gel.
Exactement.
Très bien. Et du coup, vous avez donné déjà quelques éléments sur le public qui vient ici, le Fayard, qui est assez varié à l'image des livres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ces personnes qui viennent? Vous avez mentionné les publics universitaires, par exemple.
Oui, il y a beaucoup d'étudiants, alors un peu moins cette année. Depuis l'année dernière, la région a mis en place ce qu'on appelle le pass culture. C'est pour nous et nos confrères, hein. C'est pas que nous. C'est un pass pour la culture, aussi bien théâtre, cinéma que lecture. Et les jeunes de 18 ans bénéficient d'un passeport, enfin de chèque lire, en gros, qui peuvent venir dépenser ici. Et ça a été un véritable succès. Donc tous les jours, on a des jeunes de 18 ans qui viennent pour commander des ouvrages, et que ce soit une collection complète de BD, de manga ou des ouvrages un peu plus universitaires, même si normalement les ouvrages de cours sont exclus du pass culture. Et puis nos clients, ce sont aussi des enfants qui viennent avec leurs parents, qui ensuite sont adolescents et qui reviennent un peu plus grands et tout seuls le mercredi après-midi. Il y a aussi des lecteurs fidèles. Il y a un monsieur qui vient tous les jours, par exemple, depuis des années. Donc voilà, on a une vraie relation qui s'est créée avec
oui,
ces gens-là.
Oui, forcément, si on a ce rendez-vous quotidien, forcément.
Exactement, oui. Et ça nous a manqué pendant le confinement, évidemment. C'est ce rapport-là aux gens qui nous a le plus manqué.
Et réciproquement, j'imagine.
Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, le jour des réouvertures, aussi bien après le mois de mars qu'après le mois de novembre, mais il y avait la queue et c'est toujours appréciable de dire qu'on est attendu en fait.
Et d'ailleurs justement, je voulais vous questionner un peu sur ce lien que vous pouvez mettre en place entre les livres et la clientèle. Donc on a pu parler des événements que vous proposiez, mais il y a également tout un tas d'échanges de l'ordre, on va dire, de la prescription, du conseil, qui j'imagine se fait à l'oral, mais j'ai remarqué que, comme dans beaucoup de librairies, ici on peut trouver des notules, ces petits commentaires, ces petits coups de cœur mis en avant. Mais vous avez aussi fait le choix de développer un site web et même un blog. Mmh. On peut lire des articles assez détaillés. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce travail ?
Oui, donc ça, c'est le travail des libraires essentiellement qui, effectivement, nous font des comptes rendus de lecture et des coups de cœur écrits et qui sont publiés sur le blog, sur le site, enfin, sur le blog et aussi sur les réseaux sociaux. C'est important pour nous de maintenir une relation aussi avec les lecteurs sur les réseaux sociaux. Et ce que nous avons aussi mis en place depuis quelques mois, ce sont des conseils vidéo cette fois-ci avec une interaction visuelle avec les libraires. Je ne sais pas si c'est... je réponds à votre question.
Si, mais je me posais aussi la question de comment vous avez fait le choix en fait, de ces différents positifs. Là, vous êtes passé à la vidéo. C'était quoi les raisons derrière ça?
Alors la vidéo, c'est essentiellement parce qu'on avait perdu le contact avec nos clients pendant les différents confinements. Et que ça nous manquait et que ça leur manquait. Et donc, il a fallu trouver des solutions pour garder ce contact-là. Et on s'est dit que les vidéos, c'était un bon moyen de garder contact, et notamment visuellement. C'est un autre travail pour les libraires, c'est une autre exposition pour eux. C'est pas exactement la même chose que de mettre son coup de cœur sur un papier, mais ça fonctionne bien.
Vous avez des bons retours du côté équipe comme du côté...
Exactement, oui. Oui, tout à fait, ouais. Et ça se développe, et on va le développer, je pense.
Une autre chose que j'avais remarqué, c'est votre partenariat avec la Box Cube. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une box de lecture personnalisée permettant de recevoir chez soi un livre choisi sur mesure par un ou une libraire indépendante. Et on peut y retrouver en fait, pas mal de salariés de Le Fayeur. Mm-hmm. C'est un partenariat qui est récent, qui est arrivé comment?
Alors, c'est arrivé au moment où la box s'est ouverte, c'est fait.
Ouais,
c'est quasiment dès le départ. Et donc oui, on a certains de nos libraires qui sont conseillés, c'est-à-dire que si une personne souhaite avoir un conseil sur un livre, ça peut être la librairie Le Fayeur qui le lui donne.
Que, bah, du coup, vous travaillez à la librairie, vous devez en voir passer également des livres. Mm-hmm. Est-ce que vous avez un coup de cœur littéraire à nous partager?
Alors, le dernier, j'ai lu ce week-end Les Impatientes, qui est donc le Goncourt des lycéens. On est beaucoup à l'avoir lu, ça a été une vraie claque, hein, parce que c'est un très beau texte qui raconte la position des femmes en Afrique et la difficulté à être une femme et à choisir quand on est africaine. C'est juste magnifique et ça nous repositionne nous aussi en tant qu'européennes. Donc ça, c'est un dernier ouvrage coup de poing, j'ai envie de dire. Et un livre que je conseille beaucoup, mais déjà depuis quelques mois, c'est « Avant les diamants » de Dominique Maison. C'est sorti chez La Martinière. C'est un ouvrage qui raconte le Hollywood des années 50-60, où on rencontre beaucoup d'auteurs. Avant les diamants, ce sont ces jeunes femmes qui, avant d'être aux Oscars sur la scène, attendent les diamants justement et sont prêtes à tout pour acquérir la célébrité. Et donc c'est à la fois du sexe, de la drogue, c'est à la fois violent et en même temps c'est très documenté, enfin je le recommande vraiment.
Merci beaucoup Caroline Legleu. J'ai une toute dernière question. Bien sûr, après cet entretien, nous allons diffuser de la musique à l'antenne. Et justement, c'est l'occasion. Est-ce qu'il y a une musique qui, pour vous, pourrait être la bande-son de la librairie?
Alors, de la librairie, je ne sais pas. Mais depuis ce matin, j'ai la chanson « Over the Rainbow ». Parce que Constance Joly a sorti un livre avec ce titre. Et donc, voilà, ça me raconte ma journée. Puisque j'ai travaillé sur ce livre ce matin.
Très bien. Merci beaucoup, Caroline Legleu.
Merci à vous.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your windowpane to a place behind the sun, just a step beyond the rain. A land that I heard of once. once in a lullaby. Somewhere over the rainbow skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere. Melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the then, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
Eh bien, voilà. Rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc deux ce matin, deux pour vous accompagner, eh bien, durant cette heure. Et l'entretien avec notre partenaire Le Fayer révèle effectivement un peu plus les coulisses de ce qui s'y passe, de ce qui s'y vit. C'est une librairie dans laquelle je vais souvent. Elle est en centre-ville et je l'ai découverte bien avant de vivre à Rennes. Alors j'y ai beaucoup de souvenirs. Lorsque je m'arrêtais dans cette ville, adolescente, pour faire une halte avant d'aller en vacances, près de la mer à Dinard notamment. Avant les journées estivales en famille ou entre amis. Et là, je pense au roman de Nina Bouraoui, à ce texte dans lequel elle retrace ses moments heureux, ses heures à traverser le barrage de la Rance pour aller d'une soirée à une autre. Ses premières histoires d'amour aussi, ses chagrins, ses tourments, de Saint-Malo à Saint-Lunaire. C'est si beau, surtout à la tombée de la nuit. Bon, alors oui, la librairie Le Fayer, eh bien, nous réserve bien des surprises, des pépites littéraires. Et récemment, j'ai encore été attirée, subjuguée par l'iconographie attrayante des couvertures des livres. Bien sûr, il y en a d'autres, plein d'autres. Mais j'ai tellement le goût de la gourmandise et de la surprise. Tout d'abord, le roman La petite dernière de Fatima Das. C'est la première de couverture qui m'a plu. Ses fleurs en noir et blanc et une seule unique et ravissante en rouge. J'en avais déjà entendu parler par les Inroc, par des émissions de radio, des potes aussi. Bon, alors j'ai plié, avec plaisir, dans son acquisition et sa lecture dès mon retour chez moi. Je l'ai lu en 2 heures. 2 heures à être absorbée, complètement absorbée par l'écriture. C'est une autofiction au style dense, authentique, puissant, des phrases courtes, directes, un style qui vous prend et ne vous lâche plus. Vous sentez, ouais, c'est ça, qu'il se passe un truc et ça va bien au-delà des mots. C'est un ressenti, celui de cette femme portée par ses réflexions, ses combats, sa sincérité. Ça vous prend comme une urgence. Ouais, c'est ça, son écriture est évidence. Du naturel, du spontané, de l'impulsion, de la pulsion et des passions. Pourquoi devrait-elle choisir entre ses histoires d'amour et sa soif de spiritualité ? Bien sûr, ce livre dépasse
ce schéma, à savoir aller vers une autre voie plutôt qu'une autre? Et pourquoi celle-ci au détriment d'une autre? Est-il nécessaire d'en écarter une pour parvenir à être heureuse? Par quelle pression la société nous pousse-t-elle à ne pas être nous-mêmes? L'autrice nous dévoile son cheminement quasi quotidien pour tendre à sa vérité. Loin des normes bien définies et hypernormées. Bah après tout, le chemin n'est-il pas justement de se laisser surprendre et regarder, vivre les émotions qui en naissent, sans savoir où le risque nous mène, sans avoir à choisir? Alors, concernant le livre en lui-même, chaque chapitre commence par la même anaphore. Je m'appelle Fatima Das. Bon, qui est-elle justement? Je vous lis la présentation de l'autrice écrite en tout début de roman. Fatima Das est née en 1995 à Saint-Germain-en-Laye. Ses parents, venus d'Algérie, se sont installés à Clichy-sous-Bois. Elle grandit dans la petite ville de Seine-Saint-Denis, entourée d'une famille nombreuse. Au collège, elle se rebelle, revendique le droit d'exprimer ses idées et écrit ses premiers textes. Au lycée, elle participe aux ateliers d'écriture conduits par Tanguy Vielle. Encouragée par l'écrivain et sa professeure de français, elle s'inscrit au master de la création littéraire de Paris 8. Elle se définit comme féministe intersectionnelle et la petite dernière est son premier roman. Ce premier roman, paru aux éditions Noir et Blanc l'an passé, nous interpelle. La narratrice part à la recherche de son identité, se demande jusqu'où elle doit se déposséder d'une part d'elle-même pour être acceptée et comprise des autres. C'est son combat quotidien, une urgence, une quête de vérité. Et la réussite de ce livre tient à cette sincérité hyper touchante et terriblement bien écrite. Ce livre, c'est une somme de punchlines à part entière, une somme d'interrogations. D'état d'âme, de désir d'amour à donner, à partager. Il y a une aisance d'écriture très remarquable. Celle par qui Ricochet révèle en personnage sa place dans la société et aussi celle de l'autrice, à savoir d'être dans la création. Car oui, l'écriture de Fatima Das, cette confession, donne corps à une expression de vie. Et là, en lisant cet ouvrage, j'ai pas cessé de penser à l'écrivain Édouard Louis. Bon, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine chronique. Écoutons un extrait. Et celle-ci sera suivie d'une musique qui m'est très chère.
Je m'appelle Fatima Das, mais je suis née en France, dans le 78, à Saint-Germain-en-Laye. Je viens au monde par césarienne à la clinique Saint-Germain dans la rue de la Baronne Gérard. Césarienne, du latin caedere, taillé, coupé. Incision de l'utérus. Après ma naissance, à 30 ans, ma mère a fait un infarctus. Je m'en veux d'être née. On m'extrait du ventre de ma mère à l'aube. Je ne nais pas asthmatique. Je le deviens. J'entre officiellement dans la catégorie des asthmatiques allergiques à l'âge de 2 ans. À l'adolescence, j'entends pour la première fois le mot « sévère » pour qualifier mon infirmité. Je comprends à 17 ans que je suis porteuse d'une maladie invisible. Mon plus long séjour à l'hôpital dure 6 semaines. Ma sœur Dounia dit que je suis une éponge. Il m'a fallu du temps pour savoir que mes crises respiratoires pouvaient être déclenchées par des émotions. Je dois suivre un traitement médical, régulier, à vie. Sérétide, 2 fois par jour, 1 bouffée le matin, 1 bouffée le soir. Inorial, 1 comprimé le matin. Singulaire, 1 comprimé le soir. Ventoline, en cas de gêne respiratoire.
Merci Marion. Écoutons mes paroles.
Trop sensible, trop fragile, on me dit t'es trop lente. Toujours trop, pas assez, mais toujours différente. Trop têtue, langue pendue, on me dit fatigante. Trop timide, émotive, mais je me sens vivante. mal, trop en retard, on me dit pas trop vite. Trop sauvage, marginal, mais j'ai choisi ma vie. Trop curieuse, trop heureuse, on me dit tout et tout son contraire. On me pousse, on me freine, moi je veux juste qu'on m'aime.
Sublime écoute d'une artiste que j'apprécie beaucoup, qui parle de ses émotions, Mesparo. Et ce titre, c'était Différente. Alors maintenant, la deuxième chronique que je vous propose, eh bien, elle me tient encore particulièrement à cœur, je la love à fond. Ça s'appelle Correspondance et c'est un livre extraordinaire, une correspondance entre Maria Casares et Albert Camus. Et comment passer de cette lecture de 800 lettres aussi intense, écrite pendant 15 ans, au vide vivant, ressenti au plus profond des manches juste après la première page. Ces deux êtres échangent tout à travers leur correspondance. Et tout, ouais, c'est bien ça. Toute leur vie, ils échangent tout. Et nous assistons à la naissance de leur amour, à sa beauté, à sa force, sa singularité. C'est une histoire hors norme. Peut-être dont nous rêvons toutes et tous. Cette correspondance amoureuse, intellectuelle est juste sublime. D'abord parce qu'elle est vraie. On n'est pas dans une fiction, et ça, c'est clairement délicieux. Ensuite, parce que j'aime à titre personnel, eh bien, beaucoup les lettres, la correspondance. Alors oui, cette histoire d'amour épistolaire me touche beaucoup. Les émotions y sont dévoilées, révélées, telle une cartographie pour un voyage d'amour dont on ne sait rien et qui se réalise au fil des pages. Ce livre est complètement fou, j'adore. Alors pour commencer, je voudrais vous lire un court extrait écrit par Albert Camus, je le cite. Tu es entré par hasard dans une vie dont je n'étais pas fière, et de ce jour-là, quelque chose a commencé de changer. J'ai mieux respiré, j'ai détesté moins de choses. J'ai admiré librement ce qui méritait de l'être. Avant toi, hors de toi, je n'adhérais à rien. Cette force dont tu te moquais quelquefois n'a jamais été qu'une force solitaire, une force de refus. Avec toi, j'ai accepté plus de choses, j'ai appris à vivre. C'est pour cela, sans doute, qu'il s'est toujours mêlé à mon amour une gratitude immense. Bon, alors cette histoire, je vous raconte. Ils se rencontrent à Paris le 6 juin 1944 et s'écrivent. Tenez-vous bien, jusqu'au 30 décembre 1959. La dernière lettre d'Albert Camus, quelques jours avant sa mort, dans un accident de voiture le 3 janvier 1960 avec Michel Gallimard. Ils s'écriront, beaucoup. Cette relation, couchée, marquée sur le papier, leur permettra ainsi de supporter l'absence de l'un et de l'autre, jusqu'à chaque rencontre et éloignement géographique. Ils connaîtront la douleur de l'attente et le plaisir aussi. Certaines lettres se perdent, d'autres se croisent. La plupart arrivent, mais ça respire le désir, la passion, l'émotion, la chambre d'hôtel vide. Vous savez, quand on crève d'amour, de ne pas pouvoir retrouver la personne qu'on aime. Et seule l'écriture leur permet de s'approcher, se rapprocher, et ça va bien plus loin qu'un échange de séduction. C'est une histoire d'amour. Et nous traversons à leur côté cette intimité et ces méandres, à travers la majesté, la magie de leur écriture, sa frappe d'intensité. Écoutons un extrait.
Albert Camus à Maria Casares. Jeudi 16h, 6 juillet 1944. Ma petite Maria, je viens de recevoir ta lettre de lundi mardi. Elle est venue à point. Depuis 48 heures, c'était le marasme. Je me sentais seule, loin de ceux même qui m'entouraient, un peu comme un chien mauvais. Je vis retirée dans ma chambre sous prétexte de travail, travaillant d'ailleurs quelquefois, avec une sorte de rage. le reste du temps marchant de long en large et fumant les cigarettes qui me restent. Non, ça ne va pas du tout. Pourtant, cette campagne est belle et apaisante, mais mon cœur n'a plus sa paix, s'il est vrai qu'il l'ait jamais eue. Je suis loin de tout, de mes devoirs d'homme, de mon métier, privée aussi de celle que j'aime. C'est cela qui me désarçonne. J'attendais ton arrivée, mais il paraît que c'est pour la semaine prochaine. Alors, oh, mon chéri, ne crois pas que je ne comprenne pas. Tout est plus difficile pour toi et maintenant, je sais que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir. Ce que j'ai gagné dans les jours difficiles que nous venons de passer ensemble, c'est ma confiance en toi. J'en ai souvent douté, mal assuré que j'étais de cet amour qui pouvait se tromper sur lui-même. Depuis, je ne sais ce qui s'est passé, mais il y a eu un éclair. Quelque chose qui a couru entre nous deux. Un regard, peut-être. Et maintenant, je sens toujours cette chose, dure comme l'âme, qui nous lie et nous attache. Je t'attends donc avec amour et confiance. Mais j'ai passé des mois trop durs, trop tendus, pour n'être pas usé nerveusement. Et je supporte mal ce que d'ordinaire j'aurais enduré avec calme. N'importe, cela va passer. Je suis content des nouvelles que tu me donnes. Dis à Jean et à Marcel que je pense à eux et qu'ils ont mon affectueuse pensée. Je suis content de te savoir brune et dorée. Fais-toi belle, souris, ne te laisse pas aller. Je veux que tu sois heureuse. Tu n'as jamais été plus belle que ce soir où tu m'as dit que tu étais heureuse. Tu te souviens, avec ton ami. Je t'aime de beaucoup de façons, mais surtout comme cela. Avec le visage du bonheur et cet éclat de la vie qui me bouleverse toujours. Je ne suis pas fait pour aimer dans le rêve, mais du moins je sais reconnaître la vie où elle se trouve. Et je crois que je l'ai reconnue ce premier jour où dans le costume de Derdre tu parlais, par-dessus ma tête, à je ne sais quel amant impossible. N'attache pas trop d'importance à mes grognements. Je suis malheureux d'avoir à t'attendre encore une semaine. Mais ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte... Mais je le dirai encore trop mal. Attendons un peu. Le ciel s'est couvert et il pleut. Je ne déteste pas cela, mais je pense souvent à la lumière dont je ne puis me passer. C'est en Provence qu'il faudra que nous allions ensemble, en attendant les autres pays qui nous tiennent au cœur. Au revoir, Maria. Merveilleuse. Vivante. Il me semble que je pourrais enfiler des tas d'adjectifs comme ça. Je pense à toi sans cesse et je t'aime de tout mon cœur. Viens vite. Ne me laisse pas trop seule avec mes idées. J'ai besoin de ta présence vivante et de ce corps qui m'attendrit si souvent. Tu vois, je te tends les mains. Viens au-devant de moi, aussi vite que possible. Je t'embrasse de toutes mes forces. Michel.
Merci Marion. Ce livre donne envie d'être amoureuse. Enfin bon, je crois que je le suis.
Donne envie d'écrire des lettres d'amour, en tout cas.
Ah, c'est terrible. C'est magnifique. Ouais, en fait, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir lu Albert Camus pour rentrer dans cette correspondance. Le charme, en fait, opère dès les premières phrases. Parce que la force de l'amour... Cette intensité dépasse la popularité, la célébrité des deux protagonistes pour tendre vers l'universel. Car je crois qu'avant de bien écrire, il s'agit avant tout de bien aimer, d'aimer vraiment. Et le talent d'écrivain naît déjà par cette substance, cette énergie, cette pulsion de vie. Ah, Eros, quand tu nous tiens. Les phrases naissent, s'enchaînent avec un style, une écriture si expressive. Bon, vous remarquez que je n'ai pas du tout parlé de leur carrière, de leur notoriété. Ce qui me touche dans cette correspondance, c'est le désir. C'est ce lien entre les deux artistes. Alors je dirais oui. Comment faire de l'absence une liaison durable, réparatrice, consolatrice, réelle? Cette passerelle sublime qui les réunissait malgré la distance, puisqu'ils se projetaient déjà dans la rencontre, la certitude de la rencontre. Écoutons un autre extrait, une lettre de Maria Casares pour Albert Camus. Mon bel amour adoré, comme ta dernière lettre est arrivée juste. Je pensais justement depuis quelques jours à notre vie. Je m'interrogeais sur toi et je constatais la grande part de toi, qui m'est encore inconnue, sinon étrangère. Ton travail, tes aspirations, tes désirs, tes rêves. Jusqu'à là, nous avons dévoré les jours et l'amour que chaque cœur nous apportait, et nous n'avons pas eu le temps de nous regarder, de nous voir, de nous chercher. Je me suis surprise à souhaiter te connaître comme un autre toi-même, et dans la mesure du possible... t'aider. Souvent déjà, j'ai senti le besoin de te gronder lorsque je te voyais te dépenser trop et perdre la plus grande partie de toi-même dans des fatigues inutiles, embêtantes, mais qui s'imposent plus ou moins à Paris. Je n'ai pas osé le faire. Je craignais te déplaire, te brusquer, et je me suis tue. Puis, tout est venu et a passé trop vite. En pensant à tout cela, j'ai éprouvé quelques angoisses. Me considérais-tu digne dans notre avenir de connaître et de partager tes joies et tes chagrins? Tes ambitions et tes déceptions, tes rêves d'homme seul, enfin, tes secrets. Et voilà que je reçois ta lettre où tu me parles de ton travail. Oh, mon chéri, mon amour chéri, Rien, tu ne pouvais rien faire qui m'apporte autant de chaleur au cœur. Comme je t'aime, comme tu devines. Non, tes pensées de nuit n'étaient pas excessives. Je les voudrais en toi, du matin au soir, et que le lendemain, tu te réveilles avec une soif nouvelle et une vie multipliée. Je sais qu'il te faudrait au moins 2 vies pour aller au bout de ce que tu as à faire, et c'est justement pourquoi j'aimerais que tu resserres la seule qui t'est offerte et que tu ne l'éparpilles pas, même pour aider à vivre des gens qui, eux, ont trop d'années d'existence qu'ils ne seront jamais comblés. Enfin, de tout cela, nous parlerons longuement. Mon Dieu, dire que bientôt je pourrai t'écouter pour la première fois, car en fait, tu ne m'as encore jamais parlé. Ah, j'ai le vertige. Les premiers temps des vacances se sont passés bien paisiblement, mais à mesure que la fin approche, ma patience prend fin et il me semble ne plus pouvoir attendre. Je fais comme les chevaux qui rentrent à l'écurie. Drôle de comparaison. Je t'aime. Je t'attends. Je ne te quitte pas une heure. Je vis en toi, par toi, pour toi. Je t'aime. Je t'embrasse. Maria Victoria.
Waouh.
Une lettre, c'est tellement beau.
Moi aussi, j'aimerais bien qu'on m'écrive des lettres comme ça.
Bah c'est peut-être un appel. Hein. Alors, il y a le Facebook, le Twitter et les lettres, les vraies lettres avec un papier, un stylo plume et tout. C'est un appel, Marion.
C'est un appel. 1 euro le timbre.
Eh bien, je vais terminer ma chronique avec un extrait d'un opéra que j'adore, Tosca de Puccini. Pour vous raconter, eh bien, c'est Mario. Il se souvient de ses moments de bonheur partagés avec celle qu'il a. Moi, je sais, je parle beaucoup d'amour ce matin. Ouais, je sais, j'ai un esprit, je suis en mode... Ouais, c'est ça. Bon, love. Et donc voilà, ces moments de bonheur partagés avec celle qu'il aime. C'est un cri magnifique, très poétique, un instant de pure beauté. Et celui où il parle de son amour de la vie et de l'amour de sa vie, Florian. Belle écoute avec cet extrait. À bientôt, je vous embrasse.
venez d'écouter une petite mélodie de Puccini. Vous êtes sur J'irai crasser sur vos ondes, sur Syllab, dans une émission qui parle de livres. Et juste avant ce morceau, on a écouté une chronique de Sandrine qui nous parlait de la correspondance entre Albert Camus et Maria Cazares. Et moi, j'avais une question.
Ouais.
Je me souviens qu'en lisant l'autobiographie d'Albert Camus, mais qui n'était pas achevée, j'avais cru déceler des petits indices ça et là dans les fragments de fin du livre, mm-hmm. qu'on pouvait peut-être penser à un suicide. Mm-hmm. Alors, je sais qu'il y a eu toute une polémique et qu'on ne saura jamais, de toute façon, puisqu'il est mort. Mais je voulais savoir si dans sa correspondance, il y avait des choses qui pouvaient laisser penser, des petits indices comme ça, qui pouvaient laisser penser que cette thèse était plausible ou pas.
Eh bien, en fait, je vais dire qu'on n'en sait pas plus.
Le mystère reste entier.
Voilà, accident de voiture avec un éditeur dans une allée avec des platanes. Après, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, en lisant cette correspondance et en allant un petit peu plus loin dans sa bibliographie, il n'est pas anodin et même innocent que son écriture soit empreinte de moments extrêmement sombres, mm-hmm. avec une lucidité évidente, palpable. Donc, je ne vais pas m'avancer, mais je vais un peu le faire, parce qu'on est entre nous et parce que je pense que c'est ça aussi... Mon ressenti, c'est que pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Malgré cet amour,
effectivement, c'est...
Est-ce qu'il s'essouffle d'ailleurs cet amour au fil des lettres ? Parce que du coup, il y a à peu près, on a dit 44-59, il y a plus de 15 ans de
lettres. C'est ça, 500 lettres, ouais. 500 lettres, ouais.
Est-ce qu'il y a des moments où ça s'essouffle ? Est-ce qu'il y a des moments qui sont plus beaux que d'autres ? Est-ce qu'il y a la petite phase de lune de miel au début de la relation ?
C'est très, très beau. Vraiment, j'étais emportée. Et effectivement, en vrai, c'est comme une histoire d'amour. On passe par des phases très, très folles, très dingues, très enthousiastes. Des moments un peu plus down, ouais, vraiment, parce qu'effectivement, je crois que lorsqu'ils ne peuvent pas se voir, et pour diverses raisons, ça les met dans un état de détresse absolue. Et il n'y a pas un moment où je me suis ennuyée. Et je crois que cette histoire d'amour est tellement belle. Ouais, cette correspondance est excessivement délicieuse et touchante. Et donc, je vous la conseille vraiment. Et à l'heure des relations virtuelles, j'ai envie de pousser un peu un coup de gueule et dire, l'écriture est changée, les lettres. Après, c'est pas tant le moyen d'expression, mais c'est la façon de correspondre, de s'échanger, de parler, de dire les choses, de laisser parler son cœur, ses émotions, et de pas avoir peur d'être. Un peu too much, hein, parce qu'en fait, parce que l'amour, finalement, c'est pas simplement d'être vrai. Et voilà, je crois.
Non, mais je m'emporte parce que
je pense à quelqu'un en ce moment. Voilà,
c'est pour ça. Ouais. Mais c'est pas très sympa de parler d'amour comme ça, de donner envie aux gens en ces temps de couvre-feu où il est impossible de rencontrer des gens hormis utilisation d'applications virtuelles. Par contre, la distance entre la correspondance de Camus et Cazares et une conversation Tinder ou autre, elle est très grande. Le romantisme 2.0, c'est pas facile.
Ouais, je sais.
Très bien. Et on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite d'avoir des correspondances aussi enflammées que celles de Camus et de Cazares. Peut-être qu'il y a d'autres correspondances comme ça que tu voudrais nous conseiller.
Alors là, comme ça, je pense à Simone de Beauvoir avec le pilote qu'elle a rencontré. Pareil, un échange de lettres dingue, tellement belle et pleine d'amour.
D'accord, très bien. Et on vous souhaite de bonnes lectures et on vous dit à la semaine prochaine.
À bientôt, on vous embrasse.